lequel je me suis posé beaucoup de questions pendant pas mal d'années. C'est le thème de l'image de Dieu. C'est un thème qui m'a même frustré, je vais dire, parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai même suivi un cours particulièrement rien que sur ce sujet à la faculté évangélique de théologie à Everlé. Et avec tout ce que j'ai lu, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes, mais je n'ai pas trouvé de choses que je peux vous présenter comme des certitudes. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas grave. La parole de Dieu nous donne des éléments de réponse très intéressants que je vais aborder aujourd'hui. Mais ce ne sont que des éléments de réponse, mais ce n'est pas grave. Par contre, je me suis rendu compte que la parole de Dieu était très très clair sur les implications de l'image de Dieu. Ça m'a fait un peu penser à l'époque où j'ai travaillé sur le bateau. Encore une influence de cette église sur ma vie, c'est cette église qui m'a permis de pouvoir faire ces voyages au Népal et sur le bateau. Un peu les années formatrices de ma vie. En gros, vous êtes un peu responsable de l'homme que je suis devenu. À vous de décider si c'est une bonne chose ou pas. Mais quand j'étais sur ce bateau, j'ai dû suivre une formation. Et une des formations, c'était la météorologie. Moi, j'allais travailler dans la salle de machine. Donc, je n'avais pas vraiment besoin de connaître la météorologie sur le bout des doigts. Mais, je devais quand même suivre le cours. Je n'étais pas obligé de faire les examens, alors j'y ai pas mis beaucoup d'efforts. Dans mon syllabus, il y avait des plans qui ne me disaient rien du tout. Il y avait des mots qui sortaient que je ne comprenais pas. On parlait de front occlus, on parlait d'anticyclone, on parlait de perturbation de la troposphère. Et avec tout ça me dépassait un peu. Mais ce n'était pas grave. Si on me posait des questions là-dessus, je pouvais, et je peux encore plus ou moins aujourd'hui, donner des éléments de réponse. Mais ce n'est pas grave. Par contre, il y avait des implications par rapport à la météorologie. Il fallait qu'il y ait au moins une ou deux personnes sur le bateau qui comprenaient ça. Parce que les implications étaient très graves et celles-là, il fallait que je les comprenne. Si jamais je recevais l'annonce du capitaine qui me disait « Le voyage va durer 18 heures de plus parce qu'on va devoir contourner une tempête tropicale », je savais que moi, je n'avais pas intérêt à râler de ces 18 heures de plus où j'allais devoir travailler dans la salle des machines. Une salle de machines chauffée à 50 degrés. Si jamais on m'approchait, on me demandait de faire des heures sup pour pouvoir aller faire un petit arrimage supplémentaire parce que la pression atmosphérique est en train de diminuer. Je savais que je n'avais pas intérêt de dire désolé, c'est mon jour de congé. Ce n'était pas important que je connaisse absolument tout sur le bout des doigts, sur la météorologie, mais c'était vraiment très important que j'en connaisse les implications. Ces implications étaient telles que je ne pouvais pas me permettre de les ignorer. Et c'est la même chose avec l'image de Dieu qui est en toi, l'image de Dieu qui est en moi. On n'arrivera jamais à le comprendre entièrement. On va pouvoir avoir quelques éléments de réponse qui sont très intéressants. Mais par contre, il y a des implications très importantes qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. La météorologie impliquait toujours des dangers, apparemment. Mais l'image de Dieu, ce n'est pas le cas. Parce que l'image de Dieu révèle des véritables trésors sur ce que nous sommes. L'image de Dieu révèle de véritables bijoux sur ce que nous pouvons devenir. Et puis l'image de Dieu nous donne quelque chose de précieux. Il nous donne une base solide sur laquelle nous pouvons nous tenir quand nous devons décider ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'y a pas de meilleur endroit pour démarrer que le début. Vous avez vu, je suis au tout début de ma Bible, en Genèse 1, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Jusque-là, la lecture. L'auteur, on pense que c'est Moïse, mentionne l'image de Dieu deux fois, coup sur coup, en trois versets. Et en sandwich, entre les deux, il mentionne la place qu'il a octroyée à l'homme dans cette création. Nous sommes les dominateurs. Nous sommes co-régents sur la création. À un moment donné, on voit Adam donner des noms à tous les animaux. Certains commentateurs, comme Jean Chrysostome par exemple, ça remonte, disaient que le droit et le devoir de donner un nom aux animaux, c'était un signe de la seigneurie de l'homme sur la création. J'en vois déjà venir. Quand on voit comment l'homme se débrouille dans sa gestion de cette planète, on pourrait se dire que Dieu a fait une énorme erreur en choisissant ses délégués pour diriger cette création. Je vais revenir à ça un peu plus tard. Et puis au travers de tout ce texte, on peut sans hésiter nous voir que nous, en tant qu'humanité, nous sommes la pièce maîtresse de la création. L'astrophysique et les sciences naturelles ont quelque chose de fascinant. Parce que quand on regarde bien, il nous montre la place que tient l'homme, l'humanité dans l'univers. C'est comme si tout l'univers avait été mis en place pour nous mettre, nous, l'humanité, en valeur. Dieu nous a mis dans une galaxie suffisamment stable pour que la vie humaine puisse être possible. Dieu nous a mis sur une planète suffisamment proche du Soleil pour que nous ayons suffisamment de chaleur, mais quand même suffisamment loin du Soleil pour ne pas que nous brûlions. Dieu a mis dans l'atmosphère autour de cette planète le bon cocktail d'oxygène et d'azote pour que nous puissions bien respirer et pour que tout ne se mette pas à brûler tout le temps. Ça, c'est ce qui se passerait s'il y avait trop d'oxygène. Dieu a mis le bon cocktail de silice, d'argile et de calcaire dans le sol pour qu'il puisse y avoir la végétation. Comme ça, on a tous nos 5 fruits et légumes par jour. Dieu a mis les animaux en bon nombre sur cette planète pour pouvoir garnir nos barbecues. La saison est finie, je pense, mais on continue à en avoir besoin. Et avec tous les exemples que je viens de vous donner, je ne fais que de gratter la surface. Je sais ça parce que plus on en découvre sur l'univers, plus on se rend compte que la vie humaine ne tient pas à grand-chose. Il y a tous ces paramètres que s'ils bougent ne fût-ce que d'1%, et parfois même nettement moins, la vie ne serait plus possible. Pourtant, on est là. Et pourtant, la stabilité est là aussi. La meilleure explication possible, c'est qu'il y a un Dieu tout-puissant qui tient tout ça ensemble. Et je sais aussi ça parce que on voit comment les choses se passent dans ce récit de la création. On voit que quand Dieu crée la lumière, il décrète la lumière. Il dit que la lumière soit. Et il y a de la lumière. Quand il crée la mer et la terre ferme, il dit simplement que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Pour créer la verdure, il a simplement dit que la terre produise de la verdure. Et ainsi de suite. Et à la fin de tout ça, il dit, c'est bien. Mais quand il crée l'homme, ça se passe différemment. On le voit beaucoup plus impliqué. Il n'y a pas que sa voix qui est à l'œuvre. Il y a ses doigts, il y a ses mains qui sont à l'œuvre. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une forme de délibération. Tout à coup, c'est comme si il y avait une petite discussion qui devait avoir lieu avant de créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, au pluriel. À qui est-ce qu'il parle? Je vais faire court, c'est simple, c'est la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils étaient là. Jésus-Christ, le Fils, il n'a pas attendu Noël pour venir à l'existence. Il était là dès la création, et bien avant aussi. Saint-Esprit était là aussi. C'est pour ça qu'il dit « faisons », c'est pour ça que c'est au pluriel. Pour tout ce qu'il a créé, il n'a fait que d'en décréter l'existence. Mais pour l'homme, il est dit que nous avons été façonnés de la poussière. Basile de Césarée, il disait comme ça, « Quand nous comprenons qui fait le façonnage, l'humain est grand. » Effectivement, pour ce qui est de la matière, il n'est rien. Pour ce qui est de l'honneur, il est grand. Une autre façon de le voir, c'est qu'un demi-mètre carré de bois de peuplier, ça ne vaut même pas 1 euro. Par contre, si Léonard de Vinci va peindre la Joconde dessus, il devient inestimable. D'un point de vue de la matière, ce que je peux pincer ici, je ne vaux pas grand-chose. Mais puisque ce que je suis façonné par Dieu lui-même, ma valeur, votre valeur, notre valeur en tant que membre de l'humanité devient inestimable. Et puis il faut le reconnaître. L'homme est quand même une bête un peu particulière. On a toutes sortes de capacités qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le cosmos. Moi, j'en ai un que j'ai repéré, que j'ai trouvé nulle part dans mes lectures, c'est notre capacité de progresser. Benji, le chien de mon voisin, il n'est pas plus avancé que Argos, le chien de Ulysse dans la mythologie grecque, si tout est qu'il ait existé. Nous, par contre, nous sommes passés en un siècle des tablettes à créer aux tablettes digitales. On peut aussi parler du fait que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons la capacité d'être ébahis, admiratifs. Le regretté Ravi Zacharias, il disait que si on est ébloui devant un magnifique lever de soleil, le soleil ne nous rendra jamais le compliment. Est-ce que c'est ça, être créé à l'image de Dieu? Peut-être. Élément de réponse. Je ne peux pas vous présenter ça comme une certitude. Mais en tout cas, ça nous montre à quel point nous sommes chers aux yeux de Dieu. Il y a aussi le fait que nous possédons un esprit rationnel. Un des pères de l'Église disait « Seul l'homme peut raisonner sur ce qui est en dehors de lui-même. Penser aux choses absentes, se rappeler son raisonnement, évaluer et choisir le meilleur argument. Les animaux sans raisonnement ne voient que ce qui est devant eux, tiennent uniquement compte de ce qui se voit, même si cela pourrait leur causer du tort. Est-ce que c'est ça, la signification d'être créé à l'image de Dieu? Peut-être. Je ne peux pas vous présenter ça comme une certitude, élément de réponse, mais en tout cas, cela nous montre à quel point nous sommes chers aux yeux de Dieu. Il n'est pas rare aujourd'hui de dépeindre la race humaine comme une sorte de vermine. On appelle ça le « human bashing ». Il y a beaucoup d'anglophones dans cette église, quelque chose que je n'ai pas, ah oui, donc je peux utiliser des mots comme cela. On appelle ça le « human bashing ». On dépeint l'homme comme celui qui détruit, celui qui pollue. Il y a Einstein qui disait par exemple, que sa seule certitude, c'était l'infinité de la stupidité humaine. Il y avait cette émission, la Terre après les hommes. Je vais vous confesser quelque chose, j'ai regardé pas mal d'épisodes, j'ai trouvé ça très divertissant. Mais l'idée de cette émission, c'était que si les hommes disparaissaient de la planète, la nature se mettrait à se guérir du mal que nous lui avons fait. Et puis, il y a ce mouvement, par exemple le VHEMT, qui prône l'extinction volontaire de la race humaine pour le bien de l'environnement. Un peu de pop culture, pour ceux qui ont un peu été au cinéma dans les années 90, le fameux discours de l'agent Smith dans Matrix, qui dit qu'il n'y a que deux organismes sur Terre qui arrivent dans un environnement et qui détruisent tout. C'est les virus et la race humaine. Je vais dire que je suis peut-être un peu d'accord avec tout ça, dans la mesure où nous avons certainement des choses à revoir, des choses à nous reprocher. Mais, et il y a un grand mais, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Si on ne regardait que les erreurs des êtres humains, on serait peut-être en droit de dire que Dieu s'est trompé en nous donnant le rôle de co-régent sur la création. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Et ce n'est pas ce que Dieu prévoit de faire de nous. Ce n'est pas ce vers quoi Dieu veut nous envoyer. Cette dignité, il y a cette dignité qui découle du fait que nous sommes faits à l'image de Dieu. Cette dignité, elle est la nôtre. Et pour y avoir droit, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Exister. Ça, vous avez tous réussi à le faire. Vous avez tous réussi à exister. Vous avez tous droit à cette dignité qui découle du fait que vous portez en vous l'image de Dieu. Dieu a choisi de nous façonner à son image bien avant que nous ayons été capables de nous en montrer dignes ou de nous en montrer indignes. Dieu a choisi de le faire. Nous n'avons pas à naître dans une famille particulière. Nous n'avons pas à naître dans une race particulière. L'image de Dieu en nous, elle est pour nous. Et il y a cette dignité, cette valeur qui en découle. Nous sommes le centre de cette création. Nous sommes maîtres de cette création. Dieu l'a décrété. Nous sommes créés à son image. Mon prof disait que les premiers chrétiens étaient non seulement émerveillés par le fait que l'homme était fait à son image, ils étaient émerveillés par le simple fait qu'il était possible pour l'homme de porter cette image. C'est un privilège que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons, celui de pouvoir porter l'image de Dieu en nous. Le simple fait que nous en sommes capables, c'est quelque chose qui émerveillait les pères de l'Église, les premiers chrétiens. Et c'est quelque chose qui peut nous émerveiller encore aujourd'hui. Cette capacité unique que nous avons, pour laquelle nous n'avons aucun mérite. La seule raison que nous l'ayons, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Tous les hommes sont à l'image de Dieu, dans le sens de la valeur et de la dignité. Mais cette image peut être ternie. J'avais fait mon autoportrait et ça avait fini quand même fort. J'avais fini avec un autoportrait vraiment hideux. J'ai hésité à le donner à Steve pour qu'il le mette dans vos notes, mais je crois que si je l'avais fait, vous n'aurez fait que de regarder ça et vous ne m'aurez plus écouté. Mais cet autoportrait, il n'était pas crédible du tout, mais il était à mon image. Une image qui était un peu, beaucoup ternie. Peu après avoir été créé, l'homme a choisi la voie de la désobéissance envers Dieu. L'image est toujours là dans le sens de la dignité et de la valeur. Mais le péché a fait que nous sommes devenus des images imparfaites, des images déformées. Nous avons perdu quelque chose de magnifique que nous avions. En fait, la Bible ne dit jamais ça noir sur blanc. Mais on peut parfaitement bien le déduire parce que la parole nous parle de celui qui est l'image parfaite. S'il y en a un qui est l'image parfaite et qu'il n'y en a qu'un seul, c'est que tous les autres ne doivent pas l'être, nous autres. La Bible parle aussi de restaurer l'image de Dieu qui est en nous. Si quelque chose est parfait, ben, il n'y a pas besoin de le restaurer. Alors si la parole de Dieu parle de restaurer l'image de Dieu, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y a quelque chose à corriger. Quelque chose à réparer. 2 Corinthiens 4, 4 parle de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous avez compris. L'image parfaite, c'est Jésus-Christ. Hébreux 1, 3 parle de lui comme étant l'expression de sa personne. En fait, la traduction littérale serait que Christ est l'expression exacte de la nature de Dieu. Les premiers chrétiens parlaient de imago imaginis Dei. Imago imaginis Dei. L'image de l'image de Dieu. Christ, l'image parfaite. Et nous, l'image de Christ. Christ est vraiment l'image de Dieu. Parce qu'il était sans péché. Et nous chantons ses louanges à cause de cette perfection. Parce que cette perfection, c'est ce qu'il a habilité à pouvoir nous enlever notre péché. 2 Corinthiens 5, 21, il nous le dit explicitement. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est ce que Martin Luther, pas moi, Martin Luther disait. Il appelait ça l'échange glorieux. Christ, l'image parfaite, nous les pécheurs. Comme il était l'image parfaite, il pouvait prendre nos péchés sur lui. Et il pouvait mettre sa perfection sur nous. Puisqu'il est l'image parfaite, il peut le faire. Et nous pouvons avoir sur nous sa perfection, son image parfaite. L'image parfaite qui nous rend acceptables à nouveau envers Dieu grâce à l'œuvre de la croix. Chaque fois que je dis œuvre de la croix dans mon église, je fais ça parce qu'on a une croix juste là. C'est devenu un réflexe, je ne peux pas le faire ici. Je dois me discipliner. Allez. Athanase décrivait la croix comme ayant un pouvoir qui a rempli le monde et qu'au travers de la croix, les effets de la connaissance de Dieu ont été révélés à tous. Grâce à cela, Dieu peut à nouveau faire de nous de bons délégués pour être co-régents avec lui sur la création. Une création qui un jour deviendra le monde parfait qu'il a prévu au départ. Même si pas mal de choses vont devoir disparaître. L'image de Dieu, nous l'avons du point de vue de la dignité. Christ est l'image parfaite. Mais on voit encore autre chose à propos de l'image de Dieu dans le langage du Nouveau Testament, dans le langage de cette nouvelle alliance, ce nouvel accord entre Dieu et l'homme duquel nous sommes bénéficiaires. Colossiens 3:10 nous dit « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qu'il a créé. » Voilà ce que Dieu veut faire de nous tous. Voilà ce que Dieu veut faire de vous. Il veut restaurer l'image. Il veut que l'image de Dieu puisse de nouveau resplendir en vous. En fait, je viens de dire que vous êtes splendide. Vous êtes splendide et vous avez le droit de dire Amen. J'en ai entendu quelques-uns, c'est bien. Au IVe siècle, l'évêque d'Alexandrie, Athanase, lui, il allait même plus loin. Il disait, il a été fait homme pour qu'il puisse faire de nous des dieux. Il y a 1700 ans, il n'avait pas vraiment de soucis pour dire ce genre de choses. Moi, je vais être un peu plus prudent. Je ne vais pas dire que nous allons devenir des dieux. surtout si c'est enregistré. Mais grâce à Christ, nous pouvons dire qu'il y a quelque chose de Christ, il y a quelque chose de Dieu en nous. Je vous ai promis que j'allais terminer par des implications de l'image de Dieu. Parce que je pense que c'est surtout là que réside l'importance. Deux grands principes. Premièrement, il faut se rendre compte de la valeur de l'autre. Surtout de l'autre qui est en Christ. Parce qu'il s'agit de la valeur que Dieu lui accorde. On a deux exemples dans la Bible. Il y a un exemple vraiment extrême de ce principe-là. Et puis un autre exemple, l'autre côté du spectre, de quelque chose de vraiment terre à terre. Quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours, de tout un chacun. L'exemple extrême, Genèse 9, 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme. Pourquoi ? Car Dieu a fait l'homme à son image. L'image de Dieu est en tous. On n'a pas le droit de faire le mal à l'autre. L'exemple, puis je vous avais dit qu'il y avait un autre exemple plus commun, c'est dans Jacques 3, 9, où il est question de maîtriser sa langue. Il dit que par elle, par la langue, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Le simple fait de dire des méchancetés par rapport à un autre, ou à un autre, est présenté comme particulièrement grave ici. C'est particulièrement grave parce que cet autre à qui on fait mal, par ses paroles, c'est une personne créée à l'image de Dieu. C'est une personne qui porte cette dignité intrinsèque qui est là, puisqu'il porte en lui l'image de Dieu. Il paraît qu'il y a une expression dans le nord de la France, je ne fais pas les accents, désolé, si vous connaissez quelqu'un du nord de la France, ou s'il y en a ici, vous lui demanderez comment il faut le dire, après. Qui doc l'un, doc l'autre. Celui qui en frappe, si tu frappes une personne, tu frappes l'autre. La signification de cette expression, c'est si tu fais du mal à un ami, c'est comme si tu me faisais la même chose. Et c'est le même principe. Si nous faisons mal à un autre, quelqu'un qui porte l'image de Dieu en lui, c'est comme si nous faisons la même chose à Dieu. Et ça devrait nous faire réfléchir à deux fois, avant de faire certaines choses, avant de dire certaines choses. Je me suis vraiment senti poussé à parler de ça, parce que je me suis rendu compte que trop souvent, dans les milieux chrétiens, j'entends des phrases du genre « une balle dans la tête et on n'en parle plus » ou « il n'a qu'à crever ». Une fois que j'ai découvert toutes ces choses sur l'image de Dieu, je me suis rendu compte que ce sont des propos qui ne sont tout simplement pas acceptables. Si vous entendez ce genre de propos et que vous êtes conscient de ce que signifie et ce qu'implique l'image de Dieu, il va falloir dire quelque chose. Dites-le avec amour. Dites-le avec affection. Mais quand on fait du mal à quelqu'un, c'est comme si on faisait la même chose à Dieu. Ça, c'est le premier principe. Maintenant, le deuxième. Le fait d'être à l'image de Dieu est une base solide sur laquelle nous devons nous tenir quand nous réfléchissons à ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, d'habitude, quand j'utilise une phrase érudite, elle va être plus longue, mais dans ce cas-ci, elle va être plus courte. Pour utiliser une phrase plus érudite, l'imago Dei, c'est le béaba de l'éthique. Un jour, j'étais à la piscine avec mes deux fils. N'ayez pas peur, il n'y a pas eu de danger, ils sont tous les deux là derrière, ils sont en pleine santé. Ils avaient 3 ans et 5 ans. J'étais à la piscine avec eux et j'en portais un en dessous de chaque bras. Il trouvait ça très rigolo. On a eu des bons moments. Ça rigolait bien. Mais je me suis éloigné juste un petit peu trop. J'ai commencé à me rendre compte que garder une tête au-dessus de l'eau, il n'y a pas de souci. Mais garder trois têtes au-dessus de l'eau, rien qu'en faisant des mouvements de jambes, c'est très compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je n'étais pas du tout en danger. Il a suffi que je soulève un peu les garçons. Leur tête était à peu près ici. C'est difficile en tenant le micro. Puis alors, je me suis laissé couler. J'ai pris ma respiration avant. Je me suis laissé couler jusqu'à ce que mes pieds touchent le sol. J'ai un peu plié mes genoux. Les têtes des garçons étaient au-dessus de l'eau. Et je me suis propulsé. Et en me propulsant, je me suis trouvé de nouveau en sécurité. Les garçons ne s'en sont même pas rendus compte. Je leur ai demandé s'ils s'en souvenaient, ils ne s'en souviennent pas. Je vous le dis, rien de tel qu'une bonne base solide pour faire ce qu'on a à faire. Dans le cas qui nous intéresse, la chose que nous avons à faire, c'est celle de se faire des opinions. Aujourd'hui, plus que jamais, on nous pousse à avoir des opinions. Aujourd'hui, plus que jamais, on nous pousse à exprimer nos opinions. Aujourd'hui, plus que jamais, on nous pousse à respecter les opinions de l'autre. Aujourd'hui, moins que jamais, on le fait vraiment. Si on exprime l'opinion et que l'autre n'a pas envie de l'entendre, on s'expose à pas mal de choses. Lynchage sur les réseaux sociaux, lynchage dans les médias. J'ai préparé cette prédication pour la première fois au mois d'août et je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça allait être d'application en ce moment. Se former, ce qui est important pour nous en tant que chrétiens, c'est de se forger des opinions selon le cœur de Dieu. Ça devient d'autant plus important. Et pour ça, on a besoin d'une bonne base solide pour pouvoir se former ses opinions. Tout comme moi, à la piscine de Wands, il me fallait une bonne base pour me propulser dans le bon sens. Quand on se forme des opinions, il nous faut une bonne base pour nous propulser dans le bon sens. La bonne base par excellence, c'est la parole de Dieu. Mais avec les temps d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de développements, des questions qui se posent aujourd'hui, qui ne se posaient pas à l'époque de la rédaction de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on parle de couples polyamoureux. On parle de cellules souches, on parle d'avortement, d'euthanasie, de fluidité du genre. On parle d'intelligence artificielle qui pourrait se passer de l'homme. On parle d'automatisation qui va nous forcer à réévaluer notre rôle sur la Terre. On parle de devoir choisir à qui on fait bénéficier le matériel qui pourrait maintenir en vie. On parle de manipulation génétique pour créer l'être humain parfait. La parole de Dieu ne parle pas de toutes ces choses. Mais la parole de Dieu reste d'actualité parce que Dieu, dans son génie divin, il nous a fourni une base solide sur laquelle nous pouvons nous tenir quand nous formons des opinions. Et c'est d'autant plus important parce que les opinions que nous avons vont devoir un jour donner lieu à des décisions. Et il se pourrait que vous vous retrouviez dans une situation où les décisions que vous prenez vont avoir un impact sur des êtres humains, sur des gens créés à l'image de Dieu, qui vont avoir un impact, ces décisions, des gens qui sont porteurs de l'image de Dieu, des gens qui ont en eux cette dignité qui découle du fait qu'ils ont l'image de Dieu en eux. Si vous n'êtes pas dans le marketing, dans le milieu médical, ou dans la politique, ou dans un de ces domaines où vous pouvez être très influent, ne sous-estimez pas votre influence, parce qu'il se pourrait que vos opinions puissent avoir une influence sur une de ces personnes, justement, qui se retrouvent dans ces situations-là. La question « Qui suis-je ?» je dois répondre « Je suis Martin. » Mettez votre nom à ma place. « Je suis, petit point, créé à l'image de Dieu. » Ça, c'est la réponse qu'on doit donner à « Qui suis-je ?» Si tout ce que j'étais, ce n'était qu'un amas de matière organique, de cellules carbonées, on pourrait faire ce qu'on voulait. On pourrait faire ce qu'on veut avec l'être humain. Mais puisque ce que je suis, c'est un être créé à l'image de Dieu, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'être humain. Ce n'est ni le lieu, ni le moment de pouvoir rentrer dans toutes les questions subsidiaires qui arrivent, toutes les études de cas et tous les arguments qui surgissent par dizaines dans toutes ces questions-là, dans toutes ces conversations-là. Mais le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous le dire, qu'avant de vous former des opinions sur quoi que ce soit, soyez au clair sur l'importance de l'image de Dieu qui est en nous. Je vais le répéter parce que c'est très important. Avant de vous former des opinions sur quoi que ce soit, soyez au clair de ce que ça signifie d'être créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu que tu portes, qui que tu sois, l'image de Dieu, voilà ce que Dieu est en train de faire de toi. C'est pour ça que je n'ai pas hésité un instant quand je dis que vous êtes splendide. Ce qu'ils vont dire amen cette fois-ci. Vous êtes splendide.
Amen.
Vous avez le droit de le dire. Parce que c'est Dieu qui a mis son image en vous. On est en train d'adorer Dieu quand on dit cela. Il y a plein de choses qui ne vont pas par rapport à la condition humaine. Il faudrait être spectaculairement naïf pour penser le contraire. Toute cette souffrance peut se résumer à cette profonde insatisfaction. Quand on se rend compte qu'entre ce que nous vivons et entre ce que Dieu a prévu, il y a ce décalage, ce déphasage. Mais l'œuvre de la croix est là pour résorber ce décalage. D'ailleurs, Christ était le seul capable de le faire, tellement ce décalage était énorme. Christ est venu pour réparer, nous redonner l'image parfaite de Dieu que nous portons en nous. Amen.